cours de philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Genard le 12 mai 1989.
Alors, nous allons continuer cette étude des sensations. On a vu pourquoi on commençait par les sensations et non pas par le cogito. C'est intéressant parce que il y a une espèce d'opposition entre position de Descartes et position d'Aristote. Faut jamais l'oublier, ça. La sensation fondamentale, c'est le toucher. Le toucher, sensation liée à la vie de l'animal. Un animal ne vit plus quand il n'y a plus la sensation. Et la sensation est répartie sur tout le corps. Évidemment, le toucher touche mieux. Quoique les doigts de pied peuvent toucher aussi très bien, n'est-ce pas? Mais il y a quand même un discernement plus grand. Et c'est le sens qui, justement, est réparti à travers tout le corps, parce que c'est par là que nous avons le contact avec le milieu dans lequel on est. C'est le toucher qui est le sens de l'aliment, de la vie végétative, comme le goût, mais le toucher en premier lieu. C'est le toucher aussi parce qu'il est le sens fondamental et premier génétiquement. C'est pas le plus noble. Le plus noble, c'est la vision. Le toucher, l'intelligence s'en sert d'une manière très particulière pour le jugement d'existence. Parce que justement, il est fondamental. Alors, et qu'il est le sens qui nous sépare et qui nous unit à l'égard de tout ce qui est proche de nous, le milieu. C'est le toucher qui nous donne la connaissance de l'extériorité, une réalité autre que nous. Et dans le jugement d'existence, il y a ce point de vue-là qui est présent et qui en même temps est dépassé par l'intelligence, parce que ce n'est pas la chaleur dans le jugement d'existence, c'est l'être. C'est curieux que le devenir nous est donné dans la chaleur ou le froid, et au-delà de la chaleur et du froid, l'intelligence saisit ce qui est. Ceci est. Il faut d'autre part tout de suite comprendre cette petite distinction quand on analyse la sensation. Parce que le philosophe l'analyse, il la décrit. C'est très intéressant de décrire ce que c'est que le toucher. Et il faut le demander aux aveugles. Ce sont eux qui ont un développement du toucher étonnant. Des tas de choses que nous ne faisons aucune attention. Faisons un petit peu attention quand il y a une porte, évidemment, pas taper dedans. Et puis le soir, quand on est réveillé la nuit brusquement, surtout quand on change de lieu, on ne s'y reconnaît plus. On peut s'y perdre complètement. C'est pas le sens de l'orientation, le toucher. Pas du tout. C'est même très très curieux. Cette expérience, cette nuit-ci, c'est pas la peine, mais vous l'avez déjà faite. Il faut essayer de redécouvrir vos sensations. C'est bon, c'est un très bon exercice au réalisme. On On est tellement usé dans notre culture actuelle par rapport aux sensations. Ce qui fait que le contact avec l'autre ne se fait beaucoup moins bien. Et pour Descartes, les sensations, source d'erreur. Donc ça n'a pas d'intérêt. Les sensations ne m'apportent rien chez Descartes. Tandis que pour nous, les sensations sont une véritable connaissance. C'est le premier type de connaissance. Et Avicenne dit, il y a une abstraction. Très amusant. Il ne faut pas le dire, hein. Il n'y a pas d'abstraction pour le toucher. Il dit abstraction parce que justement, on ne touche qu'un point. Donc, il y a abstraction, séparation des autres sensibles. Le toucher ne touche pas la lumière. Donc, il fait abstraction de la lumière. Alors que dans un paysage, il y a la lumière, il y a le toucher, il y a tous les sens. Du fait même que les sens sont déterminés à un sens, à insensible, Avicenne dit abstraction. Et c'est pas une abstraction. C'est en réalité une spécialisation. Nos sens sont spécialisés dans la connaissance. Le toucher ne touche que ce qui est capable d'émouvoir le toucher. Et c'est très curieux de voir que, de fait, ces premières sensations sont spécialisées. Naturellement. Hein. Et que le toucher est présent d'une certaine manière à toutes les autres sensations. Mais les autres sensations peuvent me donner la sensation de toucher, mais elles ont autre chose. Oui, puisque c'est un sens qui est à travers tout le corps, même à travers les autres sensations. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'analyse philosophique du toucher, qui est l'analyse de la connaissance fondamentale, première, la plus grossière, le toucher. D'autre part, il ne faut pas oublier qu'Aristote fait cette petite remarque, et saint Thomas l'a reprise, qu'on est intelligent en mesure de la qualité de notre toucher. L'intelligence dépend des carnes mollas. Ce qui a mis en fureur tous les idéalistes. Vous voyez bien ce matérialisme. On est intelligent en réalité à cause, vous voyez, de la qualité de notre toucher. Donnez la main à un singe. Vous verrez que sa patte, c'est assez grossier. Pas très fin. Donnez la main à un petit enfant. Hein, vous discernez bien. Tout de suite. Comme c'est fin. Donnez la main à un bûcheron. C'est une main intelligente. Mais calleuse. Et par le fait même, un peu dure. Voyez tout de suite la qualité du bonhomme quand vous lui donnez une poignée de main. Il y a des gens, oh, ça dégringole. Il manque un peu de caractère, ce bonhomme-là. Je sais des chefs d'entreprise qui ont refusé quelqu'un uniquement par la poignée de main. C'est peut-être exagéré. On se trahit. C'est évident, par nos mains, à toucher. Il y a un lien entre la main et l'intelligence qu'il faut essayer de saisir. Alors, on y reviendra, ça. Je veux maintenant analyser le toucher comme connaissance. Le toucher, c'est toujours le toucher de quelque chose. Je touche à table. Elle est froide, tandis que là-bas c'est chaud à cause du soleil. Et vous sentez la chaleur du soleil sur votre main. bien tiré le... Je sais pas, ça dépend des spiritualités, ça. Il y en a qui aiment mieux se chauffer au soleil. Il y en a qui aiment mieux un rideau entre deux. Mais vous touchez quelque chose et le toucher est spécifié, déterminé par une qualité. Vous pouvez dire que c'est purement subjectif, certains le diront, hein, purement subjectif. Non. Moi, je touche ça, vous viendriez, et oui, c'est la même chose. Oui, c'est tiède, ça c'est froid. Tandis que quand c'est chauffé par le soleil, vous direz tout de suite, c'est différent. Il y a une objectivité que les marxistes reconnaissent face à la philosophie bourgeoise en disant le toucher est objectif. Il touche une qualité objective. Le chaud et le froid. C'est énorme ça. Parce qu'à Fribourg, il y avait un institut soviétologique. Alors, de temps en temps, j'allais voir le directeur de l'institut soviétologique qui m'était au courant des divers articles qui paraissaient là-bas. Il m'a montré une fois un article qui montrait, c'était très curieux, qu'on revenait à l'objectivité en disant, ça c'est la philosophie bourgeoise de Descartes qui a dit qu'il n'y avait pas d'objectivité du toucher. Les bourgeois sont des idéalistes. Nous sommes nos réalistes. Donc, on analyse que il y a l'opération vitale, la connaissance du toucher, elle est dans l'homme qui touche. Mais ce toucher est déterminé par quelque chose d'autre que le toucher. Il est déterminé donc par une réalité extrinsèque. En touchant, il y a immédiatement aussi d'autres sensations. Vous voyez, je touche, il y a quelque chose de continu. Je touche, c'est la faim. Et quand vous voyez une petite araignée qui marche, puis quand elle arrive au terme, très curieux à regarder, il y a un précipice. C'est évident qu'il y a un précipice. Je sais pas comment elle le sent. Et on voit très bien, il y a un petit moment d'arrêt, d'hésitation, on dirait. Puis, elle arrive, suivant l'adhésion plus ou moins forte du sol. Ça, c'est très mauvais pour eux. Comme adhésion, c'est pas énorme. Quand c'est du poids brut, ça va. Ça dégringole, au contraire, ça arrive à faire des descentes assez verticales. Ce sont des appareils pour ça. Mais le toucher va impliquer deux sensations. Une sensation du continu, du discontinu, du mouvement, du repos. Ça, je peux tout de suite le comprendre. Et c'est très important. Et c'est en comparant le toucher et la vision, les deux extrêmes, je dirais, tiens, il y a des sensibles communs au toucher et à la vision. Et il y a des sensibles propres au toucher et à la vision. C'est une distinction qu'Aristote a faite, que je crois capitale. Donc il faut que nous la refaisions, nous. Descartes l'a rejetée. Saint Thomas l'a reprise, c'est évident. Tout ce qui est intelligent dans Aristote, Saint Thomas l'a repris. Il a bien discerné. Comme il y a très peu de choses pas intelligentes, on peut dire qu'il a tout dévoré. Presque tout. Presque tout dans Aristote. Avec une confiance presque aveugle. C'était le philosophe. tandis que Descartes nie cette distinction. Et tout le monde moderne la nie. C'est pour ça que ça m'intéresse que les marxistes la retrouvent. Les marxistes sont revenus à Aristote. Hein. Pas oublié. Lénine a commenté la métaphysique d'Aristote. Commenté pour lui. Vous savez, Lénine, hein, il a écrit. Il y a un père dominicain, un père donien, prieur de Dijon, qui a dans sa cellule tout Lénine. Parce que toute sa vie, il enseignait Lénine. Et il m'a dit, je crois que c'est le seul lieu en France où on a tout Lénine, sauf dans les grandes bibliothèques nationales, c'est évident. Mais en particulier, il a tout lu. Il a supplié l'année dernière à son provincial de ne plus enseigner Lénine. Parce que c'était le spécialiste de Lénine. On lui demandait partout de faire des cours sur Lénine. Parce que c'est pas comme moi de tout lire. On va bien lire un tout petit peu, il faut lire un peu de Lénine. J'ai lu du Lénine. Mais Lénine lisait les bons passages. Son commentaire sur Aristote, ça vaut la peine. Et vous voyez qu'il comprend d'une façon tout à fait matérialiste. Alors, voilà sensible. Propre, sensible, commun. Vous allez tout de suite comprendre, j'espère. Sensible, propre, le chaud, le froid. Ça, c'est tout à fait sensible, propre, pour le toucher. Sensible, commun, rugueux, non, continu. Le nombre, c'est un continu, c'est un discontinu. La course à obstacles. Oui, il y a une course à obstacles hein, pour le toucher, puisqu'il n'y a plus de support entre deux. Donc il y a une discontinu. Le nombre, il y a encore le mouvement, le repos. Voilà les sensibles communs pour le toucher et la vision. Quel sensible propre de la vision, la lumière, la couleur. Puis le continu. Le mouvement, le repos. Je peux voir le mouvement quand je regarde un avion. Je peux toucher le mouvement. C'est très curieux. Hein? Alors, cette distinction est capitale à voir. Sensible, propre, sensible, continu. C'est très très important pour répondre à une quantité d'objections qu'on fait à cette théorie, et qu'on voit tout de suite. Alors, il faut bien sentir ça. Les sensibles propres sont indivisibles. Quelque chose d'indivisible. Les sensibles continus sont mesurables. C'est pour ça au point de vue scientifique, au point de vue psychologique, quand vous allez faire un examen chez un opticien, le champ, on mesure, tous les appareils sont des appareils de mesure. Donc, c'est pas du tout indivisible. Qu'est-ce que l'opticien regarde au point de vue scientifique? Il regarde les sensibles communs, ce qui est mesurable. Et sensible propre, non. On lui montre parenthèse. Ricardi, c'est purement subjectif. Non, c'est pas subjectif. C'est objectif et c'est pas mesurable. Parce que c'est propre au toucher, c'est propre à la vision, c'est propre au goût. Il y a des bonbons acides. Et puis il y a des bonbons ronds. Il y en a de carrés. Et quand vous roulez le bonbon dans votre bouche, vous avez la sensation du mouvement. Puis lorsque vous le cassez, la sensation du mouvement est commune. L'acidité A relève le goût. La douceur du miel ou du lait, ça dépend pour qui. L'acidité du vinaigre, ainsi de suite. Dans chacun des sens, vous pouvez distinguer les sensibles propres et les sensibles communs. Et ça, c'est l'analyse philosophique qu'il fait. Pas l'analyse psychologique. Vous saisissez ce qui détermine le toucher. Je touche quelque chose de chaud. Après, vous vous demanderez d'où vient cette chaleur. Oui. Mais la détermination, le côté spécifique, c'est je touche du chaud. Parce que c'est froid. Puis après, je sais, mais d'où vient ce froid? Ah, tout simplement, parce que c'est du fer. Ça fait plus longtemps à chauffer. Et quand vous dites du fer, vous passez du sensible propre à un sensible continu. Et quelquefois même, à la réalité existante. Je ne touche pas la réalité existante. La réalité existante, je la touche à travers une série de sensations. C'est mon intelligence qui saisit la réalité. En réalité, ce que mes sens touchent, c'est quoi? C'est la couleur, le son, la figura. Ah, j'ai oublié de mettre la figura. La figura, c'est très difficile à traduire. Traduisez physionomie. C'est peut-être ce qui traduit encore le mieux. La figura, c'est un sensible commun. Il y a 5 sensibles communs. Très curieux. Il y a 5 sensibles propres et 5 sensibles communs. Ils sont 10. Ah, mais il est sensible. Mais vous voyez, la grosse différence qu'il faut bien comprendre, c'est que le sensible propre ne se saisit que philosophiquement. Une analyse philosophique de la philosophie du vivant. Le sensible commun se mesure. Et le sensible propre, il est, je pourrais presque dire, dilué dans le sensible commun, vous voyez. Parce que le sensible propre demande d'être saisi par tel sens. On est attentif à ça. Tandis que le sensible commun se mesure. Vous pouvez mesurer comme ça le champ de vision de quelqu'un. Jusqu'où va-t-il en louchant? Mais c'est pas la vision, ça. C'est l'aspect commun, c'est l'horizon. L'horizon, c'est un coin. C'est la grandeur. C'est du continu. Tandis que le sensible propre, ah, la lumière, belle couleur, indivisible. Et ceci, dans l'analyse, hein, je prends l'analyse tout simplement. De mon toucher, je peux peux déterminer les deux et je déterminerai en plus le sujet. Je touche ce froid. Et ce froid a l'avantage d'être très continu. C'est pas le froid quelque chose d'une pointe. C'est pas la même chose. Le froid d'une pointe est moins froid que le froid continu. C'est curieux. C'est pas une grande masse énorme. Vous savez, quand on est dans une grotte de glace, c'est froid. Et c'est d'autant plus froid que c'est continu et que ça vous enveloppe. Ça donne une sensation de froid à travers tout votre corps. Si vous restez assez longtemps là-dedans, c'est comme la douche d'eau froide, la douche d'eau froide ou la douche d'eau chaude. C'est quelque chose qui vous enveloppe. Alors, vous voyez, le sensible commun conditionne le sensible propre énormément. Et si je ne suis pas très attentif, je me laisserai prendre par ce conditionnement. C'est bien évident que c'est pas la même chose de sentir le froid d'une pointe. Parce que je sens très peu le froid d'une pointe. Je sens surtout que c'est pointe, que c'est pointu. Est-ce que vous avez déjà senti le froid d'une pointe? Tandis que le froid étendu, ça très bien. Et c'est très étendu. Oui, ça m'enveloppe complètement. Ça me donne froid. Alors là, le point de vue psychologique joue, vous voyez. Ça, c'est sûr. Dans les sensations, le point de vue psychologique joue énormément. À cause du conditionnement. Et pas le conditionnement. Et c'est pour ça que quand le conditionnement est trop fort, le sensible propre disparaît presque. Alors vous avez les deux extrêmes. Le toucher de la pointe. L'enveloppement du froid. C'est deux extrêmes. D'un côté, le conditionnement. Et les deux côtés, le conditionnement vous empêche de saisir le sensible propre dans toute sa pureté. Donc, il peut y avoir des situations limites pour les sens dans lesquelles je ne saisis plus le sensible propre. À cause de la puissance du sensible commun. La lumière du soleil. Regardez pas le soleil. Il vous brûle. Conditionnement. Parce que la chaleur est un conditionnement pour la lumière. Ce n'est pas la lumière. Mais jamais vu avec votre œil la lumière. La chaleur, je veux dire. Vous voyez la lumière, mais pas la chaleur. Et pourtant, vous dites une lumière chaude. Quand vous dites une lumière chaude, qu'est-ce que vous faites? Vous liez le sensible propre avec le conditionnement. Ce qu'on fait constamment dans ce qu'on appelle aujourd'hui dans le langage courant la perception. Vous voyez, la perception, c'est complexe. Le philosophe veut analyser. Depuis Aristote, on n'a plus analysé les sensibles propres. Depuis saint Thomas. C'est très étonnant, ça. Parce que, justement, on passe de l'un à l'autre, tout simplement, par un aspect de plus ou moins force, de plus ou moins violence du sensible commun. Le sensible propre ne vous violente jamais. Le sensible commun, oui. Il vous impressionne. Il joue sur vous énormément. La longueur de je ne sais pas, on a que votre impression des paysages de neige. Voyez, l'étendue, c'est quand même impressionnant. Si vous mettez un peu de neige dans votre main, pas la même chose, hein. De porter la neige dans votre main ou la regarder détendue une neige. Jusque dans la sensation, c'est différent. Tel tellement le sensible propre et le sensible commun sont toujours liés au point de vue existentiel. Existentiellement, ils sont toujours liés. Vous n'avez jamais un sensible propre à l'état pur. Jamais. Seule l'analyse philosophique me permet de le saisir. Le sensible propre à l'état pur. Oui, la lumière, par exemple. Je vais rarement au cirque, mais à Fribourg, j'avais de temps en temps des amis quand il y avait des numéros particulièrement intéressants. Et quelquefois au cirque, il y a des choses très philosophiques. Les clowns sont très proches du philosophe. C'est assez amusant, tu vois, de voir ça. Puis alors, il y avait là un clown extraordinaire, qui était un russe, tu vois. Plein d'intelligence. Alors, il y avait comme chose, ça revenait à tout le temps, entre tous les numéros, ça revenait. C'est pour ça qu'il m'avait invité. Il avait ce petit appareil par où on prend les papillons. Vous voyez, anciennement, parce que maintenant ça se fait plus beaucoup. Voilà les papillons et ça. Eh bien, le numéro, c'était de prendre avec son instrument, capter la lumière. C'était malin au possible. Vous voyez, vouloir capter la lumière. Alors, il avait très étudié, c'était très étudié, c'était très intelligent. Comment il pouvait capter la lumière? C'était merveilleux. Parce qu'on voyait que le sensible propre ne peut pas être capté. Évidemment, personne dans l'assistance, je crois, pensait à ça. Il s'amusait de moi. Et c'était très astucieux. Je l'ai félicité après, je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous avez pensé à tout? Il a dit, oui, oui. Et pourquoi la lumière ne pouvait pas la capter? Oh, elle est indivisible. Et c'était ça qui l'intéressait. Vous voyez, le jeu du visible, du divisible et de l'indivisible. Comment, dans la vie courante, les deux vont toujours l'un à l'autre? Ils se marient. Puisque le sensible propre et le sensible commun sont toujours ensemble. C'est un couple inséparable. Je ne dis pas qui est l'homme et qui est la femme, mais c'est un couple inséparable, toujours ensemble. Vous n'avez jamais vu le visible, le sensible propre, séparé. Et alors, vous pouvez les séparer par l'analyse, mais vous ne pouvez pas les représenter. La mime, le mime, c'est représenter. Avoir un instrument par où on veut prendre le papillon, il se laisse prendre, c'est évident, mais pas la lumière, ça échappe. La couleur, ça se laisse prendre, pas la lumière. Vous voyez, l'intelligence distingue les deux, mais c'est toujours uni dans la réalité. Distinction du tiesti et du pos. Là, vous le voyez très bien. Le tiesti, ben oui, c'est l'intelligence. Et ici, c'est la sensation. Et la sensation, quand elle est consciente, elle est intelligente. Hein. Je peux être intelligent dans mon toucher. Puisque je suis seul à toucher de cette manière-là. Vous n'avez jamais vu un singe s'arrêter, toucher, méditer. Jamais. Il donne une bonne baffe. Hein. C'est pas... Pour lui, le toucher, c'est ça. C'est le côté efficace du toucher. C'est pas le côté sensation du toucher. Alors, il y a quelque chose de très particulier où on saisit un indivisible. C'est admirable. C'est que cet indivisible est toujours donné dans un sensible commun. Tout le temps. Que va faire la science et la psychologie. Et c'est là où je les attends. Ils laissent tomber le sensible propre. Ce n'est pas mesurable. C'est pour ça que j'aimais ce mime. C'est qu'il manifestait quelque chose d'extrêmement intéressant. Que le sensible propre ne peut pas, la lumière ne peut pas être captée. Quand vous choisissez la vitesse de la lumière, vous ne saisissez pas la vitesse de la lumière. Vous saisissez la vitesse du support de la lumière. Ce n'est pas la lumière. La lumière indivisible. Pas de mouvement. Et c'est pour ça que ce charistatisé sur la lumière, in instanti, c'est juste. Elle est donnée in instanti. Vous voyez, il y a là une donnée extrêmement intéressante. Je vous dis, c'est Aristote qui l'a découvert. C'est pas parce qu'Aristote l'a découvert que ça m'intéresse, c'est parce que c'est l'analyse des sensations. L'analyse de l'objet de la sensation. Et si vous ne voyez pas ça, vous ne pouvez pas analyser la sensation. Vous comprenez l'aspect fondamental, mais pas l'aspect spécifique. Vous comprenez l'exercice, mais pas l'aspect spécifique. Ce qui spécifie la sensation, c'est le sensible propre. Ce qui conditionne la sensation, le sensible commun. Le sensible commun peut être mesuré par le sensible propre. Réfléchissez beaucoup à ça. Hein. Parce qu'il faut en avoir l'évidence. Parce que là, on est tout proche des sensations. Il n'y a pas d'induction. Donc, craignez pas. Hein. C'est simplement l'analyse immédiate. Et c'est capital, ça. Parce que c'est là où vous pouvez justifier quelque chose de très intéressant. Comment le jugement d'existence ne peut être saisi que dans l'alliance de l'intelligence et des sensations qui touchent le sensible propre. Ça, c'est un petit travail que chacun d'entre nous devrait faire. Ce travail philosophique merveilleux pour comprendre ce que c'est que le jugement d'existence. Vous devez tous faire ça. Oui, une demi-heure de silence, faites-le. Puis on remettra les paupières, ouais. Et c'est pas commode, hein. C'est très astucieux. Si le sensible commun, le sensible propre, est saisi seulement par telle sensation. C'est le contact le plus fort, le plus immédiat avec la réalité autre que moi. Le sensible commun, c'est déjà une médiation. Donc c'est pas immédiat. Tandis que le sensible propre, c'est immédiat. Et donc, si l'intelligence veut saisir l'être, il faut qu'elle saisisse l'autre dans ce qu'il a de plus acte. L'acte est toujours indivisible. Par le fait même, il faut saisir l'autre dans ce qu'il a de plus actuel, son sensible propre. Et c'est comme ça que vous le captez. Vous voyez, c'est curieux. Pour l'induction, vous servez de l'unité qui est indivisible. Pour le jugement d'existence, vous servez de l'indivisible sensible propre. De côté, l'unité est toujours ce qui garantit l'unité dans le sens qu'elle est indivisible. Quelque chose d'immédiat comme contact. Bon, je crois que vous pouvez arriver à saisir ça facilement. Sensible propre, sensible commun. Faites un peu de vitose, quoi. Le vitose n'a pas été jusque-là. On peut compléter le vitose, le méta-vitose. Parce que ça ne sert à rien de vous arrêter au sensible commun. Ce qu'il faut pour retrouver le réalisme, c'est s'arrêter au sensible propre. Sensible commun, vous continuerez de patiner. Ou de dévier. Vitose n'a pas encore. Il aurait dû être aidé, ça aurait été intéressant. C'est facile du reste. Pousser le vitose jusque-là. Retrouver le réalisme. Le contact avec l'autre. C'est si difficile. Parce qu'avec la charité, on télescope si facilement. On dit bonjour, bonjour. On voit 10 frères pendant 5 minutes. Oui, c'est rapide. J'en ai vu 10, donc je suis arrêtable. Non, vous avez vu en courant, sensible commun, le mouvement. À toute vitesse. Sensible propre, c'est... Vous allez dire le repos aussi, ah oui, mais le repos, faisons attention. Le repos, c'est le non-vivant, c'est le non-mouvement. Arrêtez, c'est pas du repos. Tout simplement. Vous ne sentez pas le mouvement. Donc, il dort, petit. Comme quand il dirait, je ne sens plus sa respiration. Ça devient dangereux. Bon, réfléchissez là-dessus. Ça, c'est pour la peine, je vous dis. C'est un des points sur lequel il y a tout un tournant qui se fait. Le réalisme repose sur la distinction des sensibles communs et des sensibles propres. Ça a l'air complètement idiot de dire ça. Mais c'est pourtant ça. Et si vous ne faites plus la distinction, vous ne pourrez plus découvrir le chemin. Avec l'être d'une autre réalité. L'être en acte, laissé en acte, dans le monde physique, c'est un sensible propre. C'est une qualité, le sensible propre. Et ça peut spécifier, déterminer mon intelligement, ma connaissance sensible. Donc, je continue l'analyse. Sensible propre, sensible commun. Et le sujet. Et le sujet, je ne peux pas le saisir avec mes sens. Tandis que les sensibles communs, je les saisis avec mes sens. Et c'est justement à cause de ça qu'on les confond si facilement. Le sujet, non. Je peux donc préciser les diverses causalités de ma sensation. La vision, c'est plus facile, la vision. Mais ce serait la même chose pour le toucher. Cause spécificatrice, donc cause formelle. La cause formelle, c'est la cause qui détermine. Sensible propre. La lumière. Cause efficiente. Le vivant. Ça, c'est très lointain. Le vivant, parce que le vivant, il a le toucher. Presque tous les vivants ont la vision. En réalité, il y a une cause efficiente, immédiate, qu'on appellera en grec la dunamis. En latin, potentia, en français, la puissance. Parce que je crois qu'il ne faut même plus employer le mot de faculté. Parce que la faculté est partie autre part. Il ne faut même plus. Parce que toutes les critiques qu'on a fait contre les facultés, en tant que découverte, employer le mot, tout simplement, dunamis. Dunamis, ça se traduit beaucoup mieux par puissance. Cette capacité que j'ai de voir. Évidemment, je ne peux déterminer ma capacité de voir qu'après avoir vu. Je vois, si je suis myope, jusqu'à telle distance. Après, c'est confus. Alors, on va vous mettre une paire de lunettes pour augmenter la détermination et l'acuité de la puissance. La paire de lunettes, c'est un instrument, un écran. C'est pas un habitus. Même les verres qui sont sur l'œil. Non, c'est pas un habitus. C'est une méthode. Humiliant de porter des lunettes. Terriblement humiliant. Première fois qu'on en a porté. Oh, c'est évident. Après, on s'habitue à toutes les humiliations. Même celle de porter des lunettes. C'est... Parce que c'est vrai, ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a une diminution d'une capacité vitale. Et on voit très bien, aujourd'hui tout le monde porte des lunettes.